Avertissement. Cher public, sachez que durant ce podcast, nous allons dévoiler l'histoire ainsi que tous les secrets du film annoncé. Si vous n'avez pas encore vu et que vous ne voulez pas qu'on vous gâche le plaisir, arrêtez ce podcast maintenant.
According to Dr. Haslein's theory of time in a vehicle traveling nearly the speed of light, the Earth has aged nearly 700 years since we left it.
Well, we've aged hardly at all.
Maybe so.
This much is probably true.
The men who sent us on this journey are long since dead and gone. You who are reading me now are a different breed.
I hope a better one.
I leave the 20th century with no regrets. But
one more thing. If anybody's listening, that is. Nothing scientific. It's purely personal. Seen from out here. Everything seems different.
Time bends. Space is boundless.
It squashes a man's ego. I feel lonely.
That's about it.
Tell me, though.
Does man, that marvel of the universe, that glorious paradox who sent me to the stars, still make war against his brother?
Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни?
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
The robots are coming.
I want more life.
Nous sommes lundi 22 octobre 2012 et 22 octobre, oui, c'est ça. Et bonjour et bienvenue au troisième épisode de 24 Quarks Secondes, podcast bimensuel dédié au cinéma de science-fiction, pendant lequel on s'amuse à repasser à travers des films qu'on aime. Et que vous pouvez retrouver sur internet à l'adresse 24quark.com, quark au pluriel toujours, et sur iTunes bien sûr. Cette semaine, si vous ne l'avez pas reconnu, ben, pourquoi écoutez-vous ce podcast? On parle du film américain.
Mais il n'y avait même pas les singes, comment tu pouvais le reconnaître? Voyons donc.
Donc on parle du film américain Planet of the Apes, la planète des singes, l'original de 1968 réalisé par Franklin J. Schaffner. Et puis ben, avec moi pour en parler, je suis très bien entouré comme d'hab par Olivier Sabineau.
Bonjour.
Et Marie-Louise Garipi.
Salut.
J'aurais dû te présenter en premier peut-être par galanterie, mais on va dire
arrête. C'est correct. C'est un film macho qu'on regarde de toute façon.
Macho, ça peut dire.
je vais jouer la bonne, je vais rien dire du tout le podcast et je vais sourire. Ça va faire le. Ça donc va donner le temps.
Ça fait comme d'avant, là, dis rien, souris.
Finalement, ma remarque, elle était. Je veux dire, elle avait du sens, ma remarque. Et avant de nous lancer dans la discussion, il faut bien sûr remercier Ezio Carosielli qui nous permet l'enregistrement de ce podcast dans le fameux théâtre Rialto à Montréal.
Et rappeler.
Et aussi rappeler que à 20h30 ce soir, tout à l'heure, il y a la projection de Planet of the Apes sur grand écran. Voilà, pour ceux qui nous écoutent en direct, ça va se passer là, ici, sur grand écran. Et c'est chouette, j'ai vu un petit bout avant, là, ils faisaient des tests et tout. Et c'est très cool de voir ça sur grand écran. C'est typiquement le genre de film, là. Ça me replonge en enfance.
Oui, c'est très différent de voir les films sur grand écran que sur ouais. Petit.
Exactement. Et d'ailleurs, donc, tout ça, on peut aller retrouver sur toutes ces infos, on peut aller retrouver ça sur le site du Théâtre Rialto, c'est théâtrerialto.ca. Nos prochaines projections et tout le programme. Donc voilà, on va commencer avec un petit résumé que j'ai trouvé sur IMDb. Un petit résumé du film, histoire de se plonger dedans. Égaré dans l'espace-temps, un engin spatial américain s'écrase en 3978 sur une planète inconnue. Les astronautes Taylor, Landon et Dodge découvrent que les hommes primitifs de cette planète mystérieuse sont placés sous le joug de singes très évolués. Voilà.
Ça résume.
Voilà. Voilà. Et puis, ben, pour commencer, ben,
il manque des détails sur la nudité et le.
Il n'y a pas assez d'unité, en fait.
Rien n'a pas assez.
Le costume pue, puis il n'y a pas assez d'unité.
Fait que, on va commencer tout de suite avec une petite première impression que vous avez. Enfin, c'est quand que vous avez vu le film?
Moi, j'ai vu ce film-là, je l'ai vu plusieurs fois à la télévision quand j'étais ado, enfant. C'est vraiment le genre de film qui rejouait tout le temps. Mais évidemment, il y avait la série télé aussi, tu sais. Donc, ça commençait toujours, ils présentaient le film. Puis, genre, deux mois plus tard, il y avait la série télé qui repartait. J'ai lu le livre aussi. Je me rappelle avoir lu le livre adolescente. J'avais beaucoup aimé le livre, qui est sensiblement différent du film, parce qu'évidemment, un livre, ça va toujours plus loin et tout, mais qui jouait quand même sur les mêmes thèmes, bien sûr, du rapport de l'être humain avec l'animal. Je pense que c'est la leçon que j'en ai tirée, outre, évidemment, le machisme légendaire dont on a beaucoup lu sur Internet des petits articles dessus. Et donc, voilà. Et puis moi, c'était vraiment un de mes films... pour moi, c'est un des films, c'est évidemment un des classiques de la science-fiction, mais une sorte de classique un peu étrange parce que on s'entend que l'histoire est comme assez invraisemblable. Là. C'est grave. Là. Puis les costumes, c'est sûr, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme effets spéciaux et tout. J'ai malheureusement pas vu la version de Tim Burton, mais j'ai écouté Rise of Planet of the Apes, qui, là, évidemment, t'es dans des effets spéciaux d'un autre calibre. Ouais. Mais pour l'époque... Mais même à l'époque, je trouvais ça bizarre que les singes ils marchent debout puis qu'ils soient tous comme des êtres humains avec un masque.
Hein, ils font semblant de se donner une petite swing. Là, pour
petite swing, ouais, c'est ça.
C'est ça, exactement. Mais en tout cas, c'est ça. C'était mon... C'est vraiment un film que j'ai revu plusieurs fois, là, enfant, adolescente. Et puis, récemment, j'ai réécouté. Voilà.
Et toi, Olivier?
Moi, je me rappelle, je l'ai vu une seule fois avant de le revoir hier soir pour le podcast. J'ai dû voir ça quand j'étais au cégep en cinéma. Il fallait se taper un paquet de classiques à ce moment-là. Je pense que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Puis j'arrive avec une espèce de réaction un peu mitigée cette fois-ci. Mais je pense que j'ai lu des trucs sur Internet, c'est des bon, gens ça. Qui aussi l'avaient vu jeune. Je sais pas si c'est parce que le film a vieilli ou on comprend un petit peu plus peut-être certains aspects du sous-texte du film et les liens qu'on peut en faire avec d'autres choses dans la vie, comme on parlait, là, de, je ne m'allongerai pas là-dessus, mais sexisme et racisme. Il y a des trucs un peu limite. On peut faire dire ce qu'on veut à un film, mais au niveau interprétation, il y a des choses qui sont un peu touchées, selon moi. C'est ce qui m'a fait un peu moins aimer le film, peut-être que c'est un film très macho, effectivement. Pour l'époque, c'était quand même assez révolutionnaire. Quoique ça a été fait en 68. Et on regarde ce qui a été fait en 69, l'année d'après, 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est pas tout à fait du même calibre, quand même. Hein? Ouais.
2001, c'est quand même un film beaucoup plus poétique, d'une certaine façon.
Oui. Puis ça a été fait d'une main de maître aussi, de quelqu'un qui a passé 2-3 ans à mettre le paquet.
C'est quand même dur de comparer n'importe quel film à un Kubrick. C'est comme... Peut-être Orson Welles, tu le compares à Kubrick, à part ça, c'est de la méchanceté.
Mais sinon, je pense que l'idée est meilleure que le film. Mais si ça vient d'un livre, à ce moment-là, c'est peut-être que c'est une adaptation qui est un peu victime de son époque, à ce moment-là. Mm. J'ai l'impression. Donc, un peu mitigé. Aimé, mais pour toutes sortes de raisons, moins aimé pour toutes sortes d'autres.
Moi, j'avais... Attends, je vais juste...
Vas-y, excuse-moi.
En fait, je crois que j'ai découvert la série avant le film quand j'étais tout gamin. Le film est sorti mon année de naissance. Et
ça ne te rajeunit pas.
Non, ça ne me rajeunit pas. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai laissé pousser la barre pour faire un peu plus simiesque. en fait, donc, je pense que j'ai les souvenirs que j'ai, c'est d'avoir, il me semble, vu la série d'abord. Puis ça me faisait peur, en fait. Je pense que je l'ai vu assez jeune. Puis ça me faisait peur, tu sais, ces singes et tout. Tu sais, c'était assez impressionnant. Enfin, en tout cas, à l'époque, on trouvait ça un peu impressionnant. Et donc, c'est plutôt un truc qui m'effrayait. Puis par la suite, j'ai découvert le film. Puis là, j'ai...
La série était intense un petit peu aussi.
Ouais, j'ai très peu de souvenirs de cette série, mais je me rappelle juste qu'étant petit, j'étais tombé là-dessus, puis ça me faisait peur, quoi. Tu sais, ces singes-là et tout, avec la tête qu'ils ont et tout.
La série, pour mon information, excuse-moi, parce que je viens d'apprendre depuis 5 minutes qu'il y avait une série.
Ouais.
Ça n'a pas rapport avec les 7 films qu'il y en a eu, combien? 5, 6, 7? Il y en a fait plusieurs.
Il y a eu 4 films qui ont suivi celui-là. J'ai pas les titres exacts en tête, mais il y a eu genre Beneath Planet of the Apes, Conquest of the Planet of the Apes, je sais pas quoi. Il y a eu donc un remake de Burton, il y a eu le prequel dernièrement là qui était pas mal. Il y a eu une série télé et puis qui n'a pas été très très longue je crois. puis un comics, enfin je veux dire, il y a eu...
Ouais.
Donc c'était... Et puis aussi d'ailleurs, c'était la série... Bon là, on rentre carrément directement un peu dans, dans l'histoire, mais ça... Ben, le fait qu'il y ait eu toutes ces suites et puis séries, machin, etc., etc., c'est aussi un des premiers films qui a eu où a commencé le truc du merchandising, c'est-à-dire que tu sais, tu commences à tu vends des poupées, des cartes, des trading cards, des machins, etc. C'est un peu le film qui a commencé ce truc-là. T'sais.
D'accord.
Et tu sais, les spin-offs, les machins et tout ça. Donc c'est ça. Moi, j'ai pas vu tous les films là.
Moi, j'en avais vu, je me rappelle d'avoir vu le deuxième.
J'ai entendu
très
que c'était
bien.
Jusqu'à Rise, c'est...
Ben, je veux dire, c'est pas compliqué. Planet of the Apes, c'était côté 3, puis le deuxième était côté 5, dans le TV Hebdo.
Oui,
donc, ça veut tout dire.
D'accord.
J'ai pas vu le remake de Burton, à part quelques extraits, mais... C'est
parce qu'il nous décourage d'aller le voir.
Il a une très mauvaise réputation.
Oui, une très mauvaise réputation. Puis de ce que j'ai vu des images, ça semblait avoir été fait un peu... botché, je sais pas, les costumes, ça faisait un peu trop fantastique, coloré, un peu comme il a fait ses Batman, mais au-delà de ça, je peux difficilement juger parce que j'ai pas vu le film au complet, mais j'ai pas vu beaucoup de
gens. Bon, c'est comme une réadaptation de l'histoire, c'est sa vision de l'histoire, mais en même temps, ça pue un peu le film de commande, hein. c'est pas, ça respire pas le Tim Burton. Mais bon, c'était un peu le début de ses films, un peu bizarre. Enfin bref, on va pas
revenons à Planet of the Apes.
Mais donc voilà, donc c'est ça, puis je l'ai revu, je l'avais revu par la suite, puis là j'avais comme compris l'histoire, et puis tu sais, vraiment ce que ça racontait, puis au-delà de... Enfin, j'avais passé ma peur, j'étais un petit peu plus âgé, donc j'avais plus peur des singes, mais... T'sais. Et puis, c'est ça. Puis après, je l'ai revu dernièrement. Et c'est vrai que ça m'a fait tout aussi plaisir de le voir. J'ai eu plein de plaisir à le voir. Mais c'est vrai que tu le vois avec vraiment un œil différent, là. Tu te rends compte de ce que ça pouvait... Enfin, par rapport à l'époque à laquelle il est sorti, tout ce que tu disais, le racisme, etc.
Mais moi, j'ai ressenti aussi beaucoup le... Ben, c'est ça, c'est toujours le fait de voir un film ancien. J'ai ressenti beaucoup le style années 60. J'ai ressenti aussi des trucs comme Star Trek, là, toute la scène du début avec qui se passe dans une espèce de désert et tout. Avec la musique et tout, ça faisait très Star Trek.
J'ai remarqué une chose.
Avec évidemment les personnages secondaires qui meurent.
Oui. Le noir qui meurt en premier après même pas 5 minutes, puis le film commence.
Non, ça dure plus que ça. C'est presque une demi-heure qui meurt.
Ah, c'est vrai, il ne se passe pas grand-chose en première demi-heure.
Non, je sais, j'ai noté ça.
Les singes n'apparaissent pas avant
une heure.
Une bonne demi-heure.
Presque la moitié du film.
Une bonne demi-heure.
Non, c'est la fois qu'ils parlent pour la première fois, ça se passe en plein milieu du film.
Ça, c'est vrai. Mais d'ailleurs, cet extrait-là, on l'a.
Ah.
Sa première phrase. Et on peut le voir maintenant. Qu'est-ce qu'on... Hein?
Ouais.
Ouais, deuxième extrait.
Thank you. Security Police.
I'm in charge of this man.
No longer, madam. He is now in the custody of the Ministry of Science.
Take your stinking paws off me, you damn dirty ape!
C'est quand même ce qu'on appelle une réplique épique.
Ouais, elle est classée dans le classement de l'American Film Institute. Ça fait partie des meilleurs quotes. Le film lui-même n'est pas dans les 100 meilleurs films, la sélection des 100 films de l'American Film Institute, mais sa réplique là, elle fait partie des 100 plus belles répliques du cinéma américain, un truc comme ça. Et c'est vrai qu'elle est bien sentie, quoi. Elle était reprise dans Rise, d'ailleurs. Comment il s'appelle, Malfoy, là. Je ne sais jamais son vrai nom d'acteur, mais le jeune acteur qui faisait Malfoy dans les Harry Potter. Ah, tu sais, qui joue le gardien des singes, là. Mm-hmm. Mm-hmm. Qui fait face à Caesar. Et puis, il lui sort ça. C'est le gros clin d'œil à plein des singes. Ça.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du personnage de George Taylor, justement? C'est macho raciste joué par notre
Charlton Heston. Je vais juste dire quelque chose qui va peut-être nous faire comprendre pourquoi ce personnage-là a un peu cette aura-là dans ce film-là. C'est que c'est une excuse de film de science-fiction. À la base, c'est un western, ce film-là. C'est raconté comme un western, c'est joué comme un western et c'est filmé comme un western. Alors que c'était la grosse mode à l'époque, dans les années 60. Et ils ont rajouté une couche science-fiction, mais si on regarde vraiment à la base, on peut comparer ça à tous les classiques de l'époque.
Mais oui, il manque le duel quand même. C'est toujours la confrontation entre le western, ça se passe toujours avec cette espèce de hors-la-loi. Non, mais t'as un hors-la-loi, puis t'as comme un justicier. Là, t'as le bon mauvais, t'as le noir, puis le blanc. Là, puis ça se termine toujours par un duel. Où est-ce que... Mais évidemment, il y a le côté peut-être désert et tout.
Mais il y a le type de personnage un peu qui se veut le leader. On dirait qu'il s'en va un peu sauver le Mexique.
Qui part à l'aventure. Mais c'est sûr que c'est aussi le personnage qui part à l'aventure, là, le Wild, tu sais, dans l'espace, là, qui quitte tout, puis qui est déjà, il est déjà blasé au départ. Hein, tu sais, je veux dire, moi, je trouve qu'ils sont durs, les gens. On dirait que le film est macho quand le personnage principal est un macho. C'est comme... Il y a comme, il me semble, de comment dire... Il y a comme une malhonnêteté, parce que c'est le portrait d'un macho, finalement. Donc, mm-hmm. c'est normal qu'il y ait ce ton-là et tout.
Mais c'est marrant, parce que ça va aussi assez à l'envers. Tu sais, parce qu'à l'époque, j'ai lu ça tout à l'heure dans un article. Tu sais, dans les années 60, les astronautes, tu sais, enfin les scientifiques, mais typiquement les astronautes, c'était un peu les héros de cette époque-là. Mmh. Tu sais. Mmh. Ils étaient considérés comme,
c'était super important.
C'était le symbole de la patrie, c'était l'optimisme,
tout ça. Les voyages sur la Lune. Ouais.
Et là, tu as ce personnage qui va complètement.
Mais c'est un space jockey, c'est pas un vrai scientifique, c'est pas un vrai astronaute, c'est une espèce de. Connard, excusez-moi l'expression, macho.
C'est vrai.
On dirait qu'ils ont pris n'importe qui s'était donné pour la mission, parce que tu pars, puis évidemment, d'après les petites histoires qu'ils racontent au début, tu reverras jamais ta famille, tu reviens 700 ans plus tard et tout et tout.
Non, pas 700 ans plus tard, là, il est 3000 ans.
Oui, mon Dieu, c'est pas ça.
Il est censé rentrer 700 ans plus tard, ce qu'il dit dans le premier extrait, là, tu sais, il a dû passer 700 ans depuis qu'on est parti.
Mais j'ai même pas l'impression qu'ils pensent qu'ils vont rentrer. Il y a comme une impossibilité dans l'idée qu'ils vont rentrer.
Une fausse naïveté, peut-être, au début.
Ouais, peut-être ça. Mais c'est assez... Ouais, non, c'est sûr que... Mais ça, c'est typiquement un truc dont je ne me rappelais pas. C'est ce personnage tellement désagréable.
Il n'est pas sympathique, hein?
Mais vraiment?
Il n'est jamais gentil. C'est un gros macho. Il pogne sa femme par la taille. Il freine tout le monde. Il gueule. Puis toute la gang là-dedans, je veux dire, c'est pas le seul qui est désagréable. Aussi, les singes, au lieu... Personne n'écoute personne, puis ils vont plutôt vouloir se donner des coups, puis se fesser plutôt que s'écouter, puis essayer.
Mais ça, ils sont dans un domaine, on dirait, un petit peu médiéval, là, ouais, genre, c'est comme qui manque de.
Mais c'est
de...
ça qui est intéressant aussi, c'est que tu vois le. Ouais, c'est ça, tu vois
ils sont pas. Ils sont pas.
Ouais, puis t'as
c'est pas une société de singes qui ressemblerait à la société de 1960.
T'as comme des castes. Ça a l'air que c'est les orang-outans qui sont les c'est les, pas les érudits, mais les. Enfin, c'est un peu le.
Ouais, j'ai lu quelque part les blonds orang-outans qui sont évidemment les chimpanzés en second qui ont une face blanche les gorilles qui sont noirs.
Les chimpanzés n'ont pas accès au pouvoir. Les chimpanzés, c'est un peu comme le peuple.
Ouais. Puis t'as les gorilles qui sont la caste inférieure, ils sont noirs.
Sauf le gorille, celui qui a une statue à un moment donné, ils sont comme. Ils parlent de religion tout le temps, puis ils parlent d'un. un grand devin ou je sais pas quoi, ou un gorille qui avait dit des affaires super sages. C'est lui d'ailleurs qui est dans... Ah non, je ne vais pas compter le punch, là.
Mais ben, tu peux.
Ben, on a prévenu le monde.
C'est lui qui avait prévenu Dr. Zeus, c'est ça?
Oui.
Que les humains avaient été là avant, ils avaient trouvé des traces, Dr. Zeus a caché tout ça, mais c'est un gorille à la base qui avait toute cette sagesse-là. Mm. Ouais. Donc, une contradiction. Quelqu'un qui ne devait pas avoir accès du tout à ce pouvoir-là, cet élitisme-là, qui finalement était là pour amener la vérité, mais qui a été caché par les...
Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est un film raciste ou c'est pas un film qui dénonce un petit peu ce rapport-là?
C'est
ça qui est difficile. Quand un film essaie de dénoncer quelque chose, soit qu'il faut qu'il devienne comme... souligné au gros crayon feutre, genre, je sais pas moi, genre, comme, j'ai pas d'exemple là, qui me vient en tête comme ça de film qui dénonce le racisme, mais tu sais, ou quand il représente une sorte de réalité qui est peut-être la réalité des années 60. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des grosses tensions raciales encore dans les années 60. Ben, je veux dire, ça commençait à être, c'était le début du changement d'une certaine façon. Je dis pense 68, c'était que ça commençait à être le début du changement positif, mais on pense aux années 50 et au début des années 60, c'était pas drôle. Là, justement, Martin Luther King, Malcolm X qui a été assassiné, toutes les...
Toutes les filles qui brûlaient leurs brassières. On s'ennuie de ça.
Ah oui, t'as gardé le goût de ça. Mais c'est ça. Donc, finalement, c'est comme... Ils représentent... En plus, ils mettent une société un petit peu médiévale avec un personnage qui vient des années 60, qui déjà lui-même, on pense pas que c'est quelqu'un de particulièrement évolué. Donc, la représentation de ça me semble pas être une... ne semble pas endosser nécessairement ce qu'on voit.
T'as pas tort.
Je trouve que le traitement des femmes est peut-être un petit peu tout much, par exemple, parce que tu sais, elle parle pas.
Mais t'as la même dualité, parce que l'autre personnage féminin qui est fort, c'est la scientifique.
Ben oui, c'est ça.
Dans les singes.
C'est effectivement.
Et qui, elle, a un personnage quand même qui est quand même une très grande importance dans le film. C'est elle qui sauve un peu la donne.
Ouais. C'est vrai. Donc elle est intelligente.
C'est très positif.
C'est ça, elle est intelligente. C'est elle qui est la plus perspicace, en fait.
Donc on a la même dualité de. On crache un petit peu sur les femmes avec le personnage de Nova, qui est l'espèce de. C'est ça, de belle fille qui parle pas. Puis que.
Mais c'est presque. C'est tellement cliché qu'ils ont dû faire exprès.
Bien, on dirait, maintenant que tu le dis comme ça.
Écoute, elle est belle, puis elle dit rien, puis tu sais, elle est à moitié nue tout le long.
Puisqu'on parle de ça, on a un extrait, parce qu'on a un petit peu plus d'extraits que d'habitude, là.
Mais non, on n'en a pas plus d'extraits, on en a coupé un tantôt. Là. Tu vas être déçu si tu n'es pas trouvé tes extraits.
Mais non, parce qu'on
Nick,
encore,
tellement, il a tellement aimé faire les extraits qu'il nous en a fait plein.
Mais non, parce que je me dis, comme on parle de ça, on pourrait le voir.
Ah, ben oui, vas-y.
On a ces scènes où, tu sais, il explique. Justement, il parle à Nova, en fait, à cette femme qui ne répond pas, puis il explique c'était quoi sa vie d'avant.
Bien, d'accord.
Allez, on peut regarder ça.
Now I don't even have you. Imagine me needing someone. Back on Earth, I never did. Oh, there were women, lots of lovemaking, but no love. That was the kind of world we'd made. So I left, because there was no one to hold me there. Did I tell you about Stuart? And there was a lovely girl. The most precious cargo we brought along. She was to be the new Eve. With our hot and eager help, of course. Probably just as well she didn't make it this far. Do you love me, I wonder? Can you love? You're not as smart as Stuart, but you're the only girl in town. Look at that. I taught you to smile.
Voilà, Monsieur Macho. Mr. Macho Man.
Ça, tu nous disais qu'il n'était pas super en forme.
Ouais,
hein?
Alors, je lisais dans le trivia là, qui est sur IMDb que pendant le tournage de cette scène, il était malade à crever. Et chaque fois,
ça le rendait plus malade.
Il se fait arroser par un jet d'eau là, à chaque fois par les singes. Et puis à chaque fois qu'il faisait ça, il se sentait encore plus mal après. Il n'avait qu'une envie, c'était que la scène se termine. T'sais. Enfin, donc voilà, c'est assez rigolo. Mais je trouve que ça se voit. En plus, il est comme vraiment mal en point. C'est quand il est devant la grille, il est vraiment genre, oh, j'en peux plus.
C'est pas toujours facile d'être un acteur. Non, surtout un grand acteur hollywoodien.
Et c'est le premier rôle nu de au cinéma de Charlton Heston.
Mais moi, j'ai trouvé courageux de faire ce film-là quand même. Il y a des scènes, tu sais, genre la scène où il embrasse à la fin.
Zira. Je me souviens jamais de son nom.
Quand on parlait justement de racisme puis de et tout, moi, c'est une scène qui m'a marquée, qui m'est restée tout le temps, beaucoup plus fondamentale que tout le reste, en fait. Parce que comme je disais, comme vous, quand on regardait le film, j'ai fait « Ah, j'ai été surprise ». Mais moi, ça m'avait marqué comme quoi, genre, un homme peut embrasser comme un singe, mais pas parce que j'aimais la bestialité, mais c'était plus genre l'image, justement, de transcender le racisme, finalement.
Finalement, c'est tabou.
Le tabou et tout, puis une espèce de témoignage d'affection, en fait.
Oui, c'est le seul moment où il y a comme une vraie tendresse. T'es.
C'est ça, exactement.
Mais lui, exprimer en mots, il va y aller physiquement. Parce
mais
que...
c'est un moment important, selon moi, par rapport à ce qu'on disait tantôt. Ouais. Sur.
C'est le seul moment où tu le trouves sympathique, finalement.
Oui, le seul.
Mais même avec ses coéquipiers, là, c'est
Non, il est bête comme ses pieds, là. Il est pas cool.
Tu sais, au début, quand ils sont dans le désert, puis vraiment, ils plantent un petit drapeau, là, tu sais.
Oui, ils sont là, ils paraissent.
Ils se foutent de leur gueule, c'est allègrement.
Ben, c'est ça, c'est ça vient ce que je disais.
Aucun respect pour ses collègues de travail. Enfin, je veux dire, c'est les gars qui ont fait ce voyage, quoi. C'est pas rien.
En fait, moi, c'est ça, je me dis, tu prends déjà un personnage qui est blasé, c'est pas comme si tu prenais un personnage qui était comme genre super gentil, fin et tout, puis tout d'un coup, il disait quelque chose d'hyper raciste, qui soutenait que c'était bien, comme moralement d'être bien, d'être raciste ou sexiste. Anyway. Puis moi, j'ai un autre truc que j'aimerais parler de ce film-là, c'est la musique. C'est intéressant comme bande sonore. Ouais, très science-fiction, là, parce qu'il a fait beaucoup de science-fiction, mais comme ça crée une ambiance qui me plaisait bien.
Musique de Jerry Goldsmith.
On est loin des espèces d'orchestres.
Ouais, ça. Il a eu, il l'a gagné ou il a eu une nomination?
Il me semble que j'ai lu le dernier dans les journaux, mais c'est à vérifier.
Je sais que, comment s'appelle, John Chambers, le maquilleur, lui a eu
un Oscar. Oui, c'est ça, c'est le maquilleur qui a gagné, c'est pas la musique.
Mais je crois que pour la musique, attends, je vais vérifier.
Mais cette musique-là, ce qui était fun, c'est...
Il y a une nomination pour le meilleur...
On est loin des espèces de péplums, genre orchestraux et tout.
Il est allé très tribal. Et il paraît même, encore dans le trivia d'IMDb, c'est intéressant, il paraît même que Jerry Goldsmith portait un masque de singe pendant les sessions. C'est vraiment pour être plus proche du...
Ça, c'est du musician studio, là, comme actor studio.
Mais ça, c'est un truc que j'aime beaucoup de Jerry Goldsmith. C'est toutes les musiques de films qu'il fait, ou en tout cas pas mal, elles ont toutes un truc spécifique. T'sais. Il va chercher genre, un instrument super bizarre ou quelque chose qui va faire que ce score-là...
On va s'en rappeler.
Ouais, tu vas t'en rappeler. Mmh. Il va coller au film d'une manière ou de l'autre. Dans Alien, c'est ça aussi. Dans le premier, non?
Il
y a fait tellement de films... Je ne sais pas quoi dire, mais c'est un de ces compositeurs que j'aime beaucoup parce que justement, il ose des choses. Là, c'était ces thèmes tribaux et puis la corne, tu sais, qui...
c'est ça, carrément. À une époque où ça ne se faisait vraiment pas,
non,
là.
C'est ça.
C'est assez précurseur, je pense.
Je ne suis pas sûr que j'avais vraiment accroché sur la musique. En fait, je l'avais trouvée dérangeante parce qu'un peu trop over the top ou intense par... Je pense qu'ils ont essayé vraiment de jouer la... En fait, ils semblent avoir inventé quelque chose qui a été reproduit après encore et encore au niveau un peu music thriller. Parce qu'à ce niveau-là, ils sont vraiment sur la coche, mais ils l'ont rendu beaucoup trop intense. Il se pose avoir des moments de tension au début d'une scène d'action, mais déjà au début de la scène, c'est on y va, le gros score et tout ça. Mais je pense que c'était parce que c'était nouveau à l'époque, donc ils ne savaient peut-être pas encore doser tout à fait, mais presque la moitié du film, la musique est beaucoup trop intense, ça devient dérangeant.
Mais vous êtes peut-être les choses en plus moins très efficaces maintenant.
Mais c'est en même temps aussi, c'est que le film, il est too much, là.
Oui,
c'est tout est too much, quand tu y penses. Excuse-moi, là, une planète... Ouais, tu sais, genre, je vais en profiter pour faire mon petit commentaire scientifique, parce que là, je pourrais dire plein d'affaires sur le voyage dans le temps et tout. Bon, d'abord, ce sont les astronautes que, d'un point de vue scientifique, sont tellement stupides. Il me semble que ça n'aurait pas dû prendre très longtemps avant qu'ils se disent, mais on doit être de retour sur Terre, tu sais, je veux dire.
C'est marrant, on peut respirer.
Ben, on peut respirer.
C'est marrant,
les je ne commence même pas là-dessus. Celui-là, là, juste ça, il écrit en anglais, il parle en anglais. Mais déjà, juste au départ, quand il voit de la végétation et tout, moindrement que tu connais un peu l'évolution, tu te dis tout de suite, ben non, c'est clair que l'évolution sur une autre planète, dans un autre système.
Ils ont trouvé une excuse pour essayer de se justifier, mais c'est n'importe quoi. Maintenant, ils disent qu'ils n'ont pas vu la Lune pendant la nuit. La première ou la deuxième nuit qui passe à traverser le désert, là,
And
two nights with no moon, je ne sais pas trop quoi.
C'est juste
comme, mais attends, là, même s'ils sont sur la Terre 2000 ans plus tard, qu'est-ce qui explique ça?
Mais bref, il y a trop d'éléments qui me faisaient sentir comme genre, ouais, ils sont pas vite, là. Tu sais, je veux dire, tu sens un manque d'intelligence de gens qui devraient être très intelligents parce qu'ils sont instruments. L'autre affaire qui, évidemment, est particulière, c'est que cette idée-là que les singes puissent parler puis que les hommes arrêtent de parler, je trouve que c'est tiré par les cheveux parce qu'on sait très bien que même dans Rise of Planet of the Apes que j'ai vu récemment, le fait qu'un singe puisse parler, ça marche pas comme ça, là. Il y a des raisons pourquoi nos cordes vocales sont faites pour qu'on puisse parler. C'est un mystère. Ils savent pas pourquoi on a évolué à être capable de parler, mais physiquement, on est capable de parler. Un singe ne peut pas parler. Ils font parler les langages des signes, mais il n'y a pas ce qu'il faut dans son corps pour être capable d'émettre des sons comme nous, on le fait. T'sais. Donc ça, c'est un détail, ouais, tu vas me dire, mais je trouve que...
Là, moi, je serais un petit peu plus indulgent. Là,
là, le fait qu'il parle anglais aussi, ça, t'es moins indulgent quand même. Est-ce qu'il fait la même chose, Tim Burton, les singes, ils parlent son anglais?
Ça doit.
Écoute, à vrai dire, je ne sais pas, car je n'ai pas vu le film ça comme toi. J'ai vu que des extraits du film, j'ai comme pas voulu le voir parce que j'en ai entendu que du mal.
Mais c'est classique, le genre, le parler anglais. Là, tous les films... comme Romain, les Romains parlent anglais et compagnie. Mais moi, j'avais apprécié...
Il faisait semblant que la barrière de langue, c'était juste... Il n'y en avait pas. Ouais, il y avait juste qu'on parle la même langue pour comprendre le film, parce que sinon, c'est trop compliqué.
Il y avait une espèce de naïveté dans ce genre de film.
C'est comme le silence dans l'espace. Là. C'est comme genre, on le fait de même. Oui, puis en même temps, il y a un des thèmes du film, c'est justement la recherche scientifique.
C'est vrai.
C'est un des thèmes importants du film, parce que c'est justement le combat d'une sorte de comment dire, c'est ça, un monde médiéval où est-ce qu'on refuse de croire aux évidences, etc., etc. Donc, moi, ça m'étonne toujours de voir des espèces... je comprends certains choix, tu sais, mais je sais pas, je suis peut-être extrémiste. Moi, j'irais au bout des choses. Ça aurait été drôle, là, qu'ils parlent une autre langue et tout, puis qu'ils finissent par, comme elle est scientifique, qu'ils finissent à communiquer, qu'il y a un interprète et tout, ça aurait donné une texture. J'avais bien aimé le film de Mel Gibson, Apocalypto, ça se regardait super bien, puis il n'y avait pas un mot d'anglais.
Ouais, puis il y avait pas de sous-titres non plus, je pense.
Il y a des sous-titres.
Ça aurait pu être un beau challenge. Déjà faire un court métrage sans dialogue, c'est un exploit, mais un long métrage, ça aurait été grandiose.
Mais ça marche quand même.
Il y en a eu, remarque. C'était quoi, La Guerre du Feu?
La guerre du feu,
Jean-Jacques Hano. Pas un seul dialogue.
Avec des singes aussi.
Avec des Néandertals, des Cro-Magnons.
C'était une belle recherche justement scientifique à l'époque de ce qu'on comprenait. Aujourd'hui, on ne pourrait pas faire ce film-là parce que ça a tellement évolué, la paléontologie. Là, ils voient les choses différemment. Mais il avait fait des recherches puis il avait proposé quelque chose qui se voulait. Puis ça marchait. Là, on sentait quelque chose en regardant ce film-là.
Au secondaire, dans un cours de morale, d'enseignement religieux, je ne me rappelle plus. Tout le monde y a eu goût, y a eu droit à mon époque. Je ne sais pas si vous avez vu ça à l'école.
La guerre du feu.
Je suis resté marqué.
Je pense que j'ai vu ça à Télé-Québec.
Mais c'est un classique. Pour tout le monde.
Moi quand j'avais 12, 13, 14 ans, je regardais des films super intello.
Je suis plus vieux que vous, je l'avais vu au cinéma, celui-là. C'est vrai que c'était un film assez étonnant. Je l'avais pas apprécié. À l'époque, je l'avais pas apprécié non plus à sa juste valeur. C'est après coup que je l'ai redécouvert.
Sinon, au niveau scientifique, moi aussi, j'ai un petit quelque chose qui m'a un peu gossé.
Vas-y.
J'ai pas trop compris qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire avec la technologie des singes. Admettons qu'on prend pour acquis, parce que dans le vaisseau, la première date qu'on voit sur le dashboard du vaisseau spatial, où il y a un cigare de bien à côté sur un...
C'est tellement drôle.
C'est 1972, comme s'il était parti en 72, alors que le film a été fait en 68.
Mais c'est normal, quatre ans plus tard, petite science-fiction.
Mais quand tu regardes la technologie que les singes ont droit, on dirait qu'ils ont pas mal de technologies de 1972, mais ils sont aussi très... retard ou 13 ans en arrière sur plein d'autres choses.
Il y a un appareil photo
de pellicule. Moi, ça m'a sidéré comment ils sont arrivés à ça. Là, ça fait aucun sens qu'ils soient arrivés à la même technologie.
Mais l'appareil photo pellicule, ressemble à un vieuil appareil
des années 10, début du 20e. C'était étonnant et fascinant de voir le mélange de la technologie qu'ils ont, les fusils qui sont exactement aussi sur la même pensée. Alors que d'après ce qu'ils disent, ils n'ont aucun artefact de la race humaine qui ben se oui, serait c'est décimé. Ça, c'est comme s'ils avaient reparti de zéro et qu'ils avaient tout réinventé ça eux-mêmes.
Mais c'est comme l'évolution de la planète. Ah ouais, c'est... Il y a comme
ouais,
une
c'est
sorte
ça, il a créé comme une espèce de nouvelle
mais
évolution.
C'est comme, un manque, c'est comme une sorte de manque d'imagination de la part oui, des créateurs de faire ça. Ou c'est un choix volontaire de se dire on fait une sorte de pastiche un petit peu genre à la... Je ne sais pas, tu sais, ou que c'est comme...
Mêler les gens avec des trucs compliqués, flyés.
Oui, mais c'est une question, en fait, qui risque de revenir souvent dans notre podcast sur la science-fiction, jusqu'où comme on doit comme tout réinventer dans la science-fiction, tout repenser, tout reconstruire, ou accepter qu'un film de science-fiction n'est pas nécessairement une vraie vision du futur, mais une interprétation de l'époque dans laquelle on vit. Parce que, ultimement, c'est ça, tu sais. Puis même les critiques que je fais sur la science et tout, on comprend que la science-fiction frise le fantastique d'une certaine façon.
C'est intéressant de voir le livre, de lire le livre, en fait, de voir la différence entre le livre et... Et le film,
Je me rappelle dans le livre, il mettait beaucoup d'emphase sur la recherche. Oui, je l'ai lu, le livre. Okay, il mettait beaucoup d'emphase, mais je l'ai lu il y a longtemps, je ne l'ai comme pas relu. Ceux qui connaissent mon horaire de ces temps-ci savent que je n'aurais pas eu le temps de me retaper le livre. N'est-ce pas, Olivier? On a été bien occupés.
Non,
vraiment pas. Je ne sais pas quand tu parles. Regarde les scènes. Mais non, je me rappelle qu'il mettait beaucoup l'emphase sur justement la Zira, c'est ça? J'oublie son nom toujours. La recherche qu'elle faisait sur faire parler, puis il mettait comme des espèces d'électrodes, puis il retournait dans le passé de la race humaine. C'est comme ça qu'elle découvrait, parce que l'être humain avait comme une sorte de mémoire génétique, puis était capable de raconter le passé. Avec ses ressources. Oui, c'était spécial, mais c'était vraiment bien fait. Le livre était vraiment très bon, très captivant. Puis la fin du livre est différente de celle du film, sensiblement, dans le sens que ce qui se passe, c'est qu'il est effectivement sur une planète des singes. Il revient avec la belle
Nova.
Pitoune,
il
Nova.
Revient sur Terre.
Mais il revient sur Terre, puis quand il sort de son vaisseau spatial tout content, parce que je pense qu'il a réparé le vaisseau spatial ou il en a construit un autre, je ne me rappelle plus ce détail-là, bien, il est tout content de puis quand il ouvre le vaisseau spatial, il est accueilli par un singe, tu sais. Donc, c'est le paradoxe.
C'est
de
très bonnes fins.
La fin du livre était très bonne, tu sais. Puis la fin du film aussi.
Mais ça, c'est épique. Ça, c'est resté dans l'histoire.
Ça, c'est l'exemple. Moi, justement, pensant à la fin, ça, c'est l'exemple d'un film où est-ce que, tu sais, genre, ils ont changé la fin, mais quand j'ai vu la fin, j'ai fait genre, je l'aime, elle aussi. D'habitude, c'est genre, pourquoi ils ont changé la fin?
Là,
c'est la meilleure dans le livre.
Fin, c'est la meilleure.
Ça a été référencé dans combien de films, cette fin-là?
Et les Simpsons. Ça fait partie de la culture populaire.
Cette image de fin, là, c'est devenu une
icône. Il fallait y penser.
Une icône du temps aussi.
Par contre, j'ai jamais compris pourquoi les éditeurs de DVD, tout ça, ou même peut-être certaines affiches...
On met ça sur la pochette.
Mettre ça sur l'affiche, le punch du film.
Non, non, c'est pas vrai.
C'est ça qu'on a ici sur...
Non, c'est pas sur... Ça, c'est la réédition en DVD, mais il n'y a pas là-dessus.
Ah oui, ils sont plus brillants.
C'est comme La Guerre des Tucs, là, le classique pour enfants québécois. Le titre en anglais, c'est « The Dog Who Stopped the War ». C'est le punch du film. C'est
complètement idiot.
Ouais, ça n'a aucun sens. Ils ne disent pas « The Dog Who Die » ou...
Non, mais ça, c'est quand même...
Mais j'avoue que la Statue de la Liberté, ça l'implique... Ouais, ça...
Ben là, t'as comme... Il n'y a plus de doute. Là.
Tous les gens qui sont perspicaces et qui remarquent qu'on est sur la Terre, comme moi, je l'ai fait, genre végétation, soleil, eau,
déjà, tous les gens qui savent là où ça a été tourné, qui connaissent l'endroit. Je connais cet endroit, c'est magnifique d'ailleurs, le Lake Powell, enfin toute la région, c'est en Arizona, c'est au nord de l'Arizona.
Mais là, l'idée, c'est qu'il n'est pas très loin de New York, donc c'est comme il y a quand même une fosse apocalyptique. Non, mais il y a une fosse apocalyptique. Ça marche, parce qu'ici, une guerre nucléaire, ça a c'est devenu un désert, c'est ça exactement.
C'est pas loin de Monument Valley, tout ça, tu reconnais un peu. J'adore cet endroit là aux États-Unis.
Ça, je pouvais comprendre qu'il n'était pas.
Mais c'est
vraiment c'est une fin classique qu'on n'oubliera pas.
Ouais. Et puis, bon, un petit mot quand même pour le travail magnifique des maquillages quoi, pour l'époque. C'était hallucinant.
Ah oui, c'était complètement révolutionnaire. Il n'y avait rien qui ressemblait à ça, je pense.
Ça a transformé le maquillage.
Je ne sais plus combien de masques il a fait pour le film, mais en tout cas, je sais qu'il y avait 80.
Ils sont tous beaux. Je pense qu'il y en a qui ont tous fait du
bien. Oui, tous différents.
Oui, c'est ça.
Il avait 80 maquilleurs avec lui pour travailler.
Oui, il méritait son Oscar. Hein. S'il n'aurait pas donné leur Oscar, s'il ne lui avait pas donné l'Oscar cette année-là, là, ça aurait été
ils sont vraiment crédibles,
la méchanceté.
À part un plan ou deux où tu vois la mâchoire de l'acteur derrière, tu sais, derrière la fausse mâchoire. Oui, au tout début, je crois que c'est Dr. Zayas, je crois. Je crois que un des premiers plans où tu vois la mâchoire en arrière.
Ça, c'est genre de truc qu'il faut regarder le film.
Je l'ai remarqué cette fois-là, comme ça, quoi.
Il faut voir le film 25 fois pour le remarquer.
Non, mais regarde, c'est première vision depuis des années
que
je n'ai pas vu.
Non, on me dit qu'on n'a pas d'image.
Mais donc ouais.
Quel stress. Qu'est-ce qui se passe?
Google.
Mais en tout cas, et puis, ouais, on ne l'a pas mentionné au début, mais c'est, le film est coécrit par Rod Serling, qui est quand même l'auteur de La quatrième dimension.
Ah oui, 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 c'est vrai, de Twilight Zone, tu veux dire.
De, oui, pardon, Twilight Zone.
Mais ben oui, ben effectivement, c'est, ouais, mais c'est quand même bien écrit là, ouais, ce film-là, là, tu sais, je veux dire, on, ça marche bien.
Ouais.
Là,
à part le matchup dans le dialogue qui aurait pu être réécrit autrement, parce que c'est beaucoup ça qui devient gossant, c'est à quel point chaque réplique, c'est fait comme, mon Dieu, quel colon américain du sud des États-Unis qui est un peu arriéré. Mais alors ça, non, l'histoire est très bonne. Là.
Mais c'est toujours la difficulté de voir un film d'une époque. Ouais. À notre époque, tu sais.
Cette époque-là, c'était plus normal, comme tu disais.
Mais je me rappelle quand, justement, à l'époque de La planète des singes, il y avait des espèces de pubs à la TV puis qui montraient des gens qui se frappaient dans des films, tu sais, des claques, là, tu sais.
Ah, ouais, ouais.
Puis,
ouais.
Tu sais, j'ai donné une bonne claque et tout, puis c'était classique, t'avais des claques partout. Puis là, je repensais à cette espèce de pub-là qu'il y avait, de, justement, c'était une pub pour annoncer le cinéma, ça frappe, c'était ça le punch.
Oh, c'est
de,
bon, ça.
C'était Radio-Canada qui mettait cette pub-là. Et puis, je me dis, aujourd'hui, t'as plus personne qui se frappe, là. Dans un film, là, tu sais.
C'est pas politiquement correct.
Ben, c'est ça, comme un mari va pas frapper, il va pas donner une claque en pleine face à sa femme, une fille fera pas ça non plus. Puis, tu sais, il y a des choses qui ont tellement changé. C'est fou, là, en 40 ans.
C'est 45 ans,
c'est énorme,
là. Faire bientôt un demi-siècle, ce film est sorti, il faut le faire, quand même.
Donc,
c'est quand même, ça a plein de charme quand tu regardes ce film, quand même. Il y a un truc charmant, quoi, avec les films de cette époque. Je sais pas.
Mais comme c'est
le spectacle, comme ça, de science-fiction de cette époque, c'est
vraiment théâtral, l'entertainment. Ouais, ouais. C'est filmé en plan très large. Le jeu aussi amène quelque chose
beaucoup
qui se rapproche au théâtre.
Beaucoup de dialogues.
Fait qu'on est dans le show live, là, mais présenté au cinéma.
Ça, c'est un truc aussi que je me rappelais. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus d'action, tu sais, dans ce film.
Il y a énormément d'action.
Oui, mais oui, mais en fait, en voyant le film, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de scènes de dialogue comme ça, tu sais.
Qui parlent et tout.
Et ça parle beaucoup. Alors,
mais
bon,
ça,
oui,
c'était une qualité, je pense, d'une certaine façon, des films de l'époque. Aujourd'hui, tu vas voir un film d'action, là, puis c'est toujours comme...
C'est too much.
Ben, je veux dire, il minimise les scènes de dialogue, puis c'est tout de suite, on bouge.
T'as compris, Michael Bay, il faut pas faire ça.
Non, mais c'est juste qu'à un moment donné, tu peux te permettre un petit peu des deux, là, un peu plus, là, tu sais. Ouais, je trouve que c'est un dosage qu'on a perdu. Là,
ça m'a aussi rappelé un épisode de Twilight Zone où il y a, je sais plus dans quelles circonstances, le personnage principal de l'épisode se retrouve, comme le monstre que tout le monde regarde, c'est que tout le monde vient voir en cage, tu sais, alors que toute la population autour de lui, le monde dans lequel il vit, c'est tous des gens avec le visage déformé, tu sais.
Ok, oui.
Lui, il est normal, mais c'est comme le monde à l'envers. Tu sais. C'est que tout le monde vient voir, genre.
Oh, oui, mais c'est un thème qu'on a à peine effleuré, c'est le rapport justement dans La planète des singes entre l'animal puis l'être humain, parce que finalement les singes traitent les hommes comme des animaux, comme des bêtes et tout. Puis pour ça, tu sais, on dit oui, c'est un film raciste, sexiste, tout le kit, mais ça amenait quand même quelque chose de choc, tu sais, comme moi quand j'étais enfant puis que je voyais ça ou jeune ado, ça me faisait sentir mal pour les animaux qu'on maltraitait d'une certaine façon. Bon, ouais. C'est peut-être grossier comme analogie, mais de ce point de vue-là, ça, c'était positif.
Qu'ils empaillent en plus, puis qu'ils mettent dans des musées, comme on l'a vu avant.
Ouais.
De bon goût. Où tu vois les acteurs qui bougent.
Mais non, on ne l'a pas vu, celui-là.
C'est l'extrait qu'on a vu tout à l'heure. Là, la poursuite, tu sais, avant qu'il crie sa première réplique.
Excuse-moi. Oui, je pensais que c'était l'extrait qu'on avait coupé, parce qu'on a coupé un extrait.
Les dioramas, là, avec les... Oui,
c'est ça.
Tu sens les acteurs qui bougent, tu sais. Si tu fais bien attention, tu vois les acteurs qui bougent. C'est très drôle.
Mais enfin. En tout cas, moi, c'est un point positif, je pense, sur le film, parce que je trouve qu'on maltraite les animaux, puis que tout le monde devrait être végétarien. Puis,
comme égard.
Ouais, dis celle qui va aller manger d'un steak. Dans
un bon
jeu.
Burger, tantôt.
Non, mais sérieusement.
Donc, c'est clairement un film post-apocalyptique.
Ah oui.
Ouais.
Ben oui. C'est révélé à la fin. Ça, c'est ça qui est intéressant.
Parce
qu'on voit la fin.
Tu dis, est-ce que c'est un monde parallèle? Est-ce que c'est juste, ils se retrouvent juste sur. C'est de l'aventure spatiale, enfin, je veux dire, tu sais, de la découverte.
Sur notre planète. Ouais. Ben c'est trop. Ouais.
Et pendant l'instant, moi, je me disais, ouais, c'est un monde parallèle dans lequel tout est, tu sais, comme à l'envers, machin. Ça aurait pu aussi être quelque chose comme ça.
En même temps, il n'y a rien qui justifie qu'il retourne sur la Terre parce qu'il était supposé aboutir sur une autre planète.
Ben
c'est ça l'explication
truc.
Du début. Ouais. D'ailleurs, il fait un petit calcul qui sera à vérifier parce que je ne suis pas sûr que son calcul est mathématiquement possible. Il dit que vu qu'il voyage à pratiquement la vitesse de la lumière, ils sont supposés faire un saut dans le temps. Donc,
c'est normal. Ça, c'est bon. Ça, la théorie de la relativité d'Einstein qui fait ça.
Ouais, mais je ne sais pas si son calcul, parce qu'il dit que finalement, ils ont passé un an et demi au lieu de 6 mois, genre, dans leur capsule, fait qu'ils sont allés 2000 ans plus tard. Est-ce qu'il faudrait vérifier ce calcul-là? J'avais un doute sur le fait que ça marchait entre l'exemple qu'il donnait lui-même dans le film et le résultat quand il crash sur la Terre.
On pourrait mettre les chiffres puis vérifier ça, là, mais il y a une certaine logique que quand tu voyages à la vitesse de la lumière...
Oui, tu voyages dans le futur. Mais oui, là, les chiffres avancent vite quand même parce qu'ils n'ont pas passé tant de temps que ça dans le vaisseau. Je parlais d'un an et demi ou un truc comme ça.
Oui, bon, moi, je ne sais pas. Ben, ils étaient en hibernation. Mais assez longtemps pour que l'autre...
Non, on n'a jamais su qu'est-ce qui est arrivé. Pourquoi ils sont retournés sur la Terre? Pourquoi il y a eu un défaut dans le vaisseau?
Mais c'est ça. Pourquoi ils sont retournés sur la Terre?
C'est d'avoir fumé dans le cockpit, là. Ça pardonne pas. C'est tellement drôle. C'est comme le truc que tu ne fais pas, quoi. Fumer dans un cockpit de vaisseau spatial.
Je me le suis expliqué comme l'ordinateur qui a dû comme changer de...
C'est Al.
Oui, c'est comme ça. On ne voit pas beaucoup l'ordinateur, mais on suppose que c'est... Mais effectivement, ça, c'est une autre histoire. Tu sais, d'envoyer... Bon, déjà, d'envoyer du monde dans l'espace en leur disant « Vous allez trouver une planète et tout », c'est comme...
En tout cas, c'est absurde. Et puis, on envoie une femme avec vous, comme ça va être...
Vous allez repeupler.
Ouais.
Trois gars, voyons.
Ben oui, c'est la logique...
Pas une lignée avec ça, là.
Moi, je me suis dit... J'y ai pensé tout de suite. J'ai dit « Non, trois femmes, un gars, c'est plus winner, là. Parce que t'as plus de chance, à la limite. » Je sais que ça vous plairait plus, en plus.
C'est sûr que le personnage de Taylor aurait aimé ça, d'après ce qu'il dit.
Non, mais il n'y avait pas de logique d'envoyer trois gars et une femme quand tu y penses. T'sais.
Non, OK.
Que,
de nouveau, ça rentre dans le département machisme.
Ben, machisme, encore là, il me semble qu'un gars préférait être avec trois autres femmes que deux barbus, là.
Ouais, en général. Si on suit, j'imagine, la philosophie de l'époque, c'est que trois femmes astronautes puis un gars, non, ça passait pas.
Ah oui, ça allait chicaner, ça allait pas marcher, ouais, effectivement. Non, il n'aurait pas pu faire ça. Mais c'est fou ce qu'il ne pouvait pas faire à une époque. Ben, aujourd'hui encore, hein, c'est un petit peu de même, là. Tu n'auras pas un vaisseau spatial avec trois femmes puis un gars, là.
Non, mais ça pourrait
être un film, ça, hein?
Ah oui. Il y a mon film qui... Ah non, je ne raconterai pas les punchs de mon film qui n'est pas fait encore. Me faire voler mes idées.
En tout cas.
C'est l'histoire d'une gang de filles dans l'espace.
On diverge.
Est-ce qu'il y a d'autres observations que vous vouliez faire encore par rapport au film-là?
Moi, je pense qu'on a pas mal couvert. On a pas mal fait le tour un petit peu dans notre feeling sur ce film-là, là, en 2012.
Ouais. Non, peut-être que dire justement le film qui a été fait récemment, qui est le prequel Rise of the
Apes,
m'a surpris beaucoup. Il y a aussi un film
qui n'est pas parfait,
mais qui ont bien rattrapé comment ça a pu commencer. Donc, on peut quand même bien embarquer dans leur raisonnement. Sur...
Tout le monde s'attendait un peu à un genre.
Je trouve que ça fonctionne pas.
Et finalement, c'était une...
Mais je trouve que ça ne fonctionne pas avec l'histoire, par exemple. Bon, déjà, l'histoire est absurde, mais c'est parce qu'on suppose qu'il y a eu une espèce d'apocalyptique nucléaire. Là, on parle d'un virus. Hein. On parle plus d'une question... Puis aussi, l'idée, c'était qu'il y a comme une cassure entre le moment où les singes deviennent intelligents puis que l'homme disparaît.
Mais il n'y a rien n'empêche que, tu sais, y a quand même 2000 ans à combler entre les deux.
Oui, bien...
Il n'y a rien encore qui explique dans le Rise of the Planet, hein, pourquoi l'humain ne parle plus.
Ça va être le sequel. Mais c'était un film qui se regardait très bien, c'est ça. Qui me fait penser à Twelve Monkey, paradoxalement aussi.
Twelve Monkey,
c'est un bon film.
Ah, ça, c'est bon. Ouais. Ça, faudrait mettre sur notre
liste. Pourquoi? Parce que singe.
Non, mais c'est parce qu'il y a le virus. C'est comme toute l'histoire, la destruction de l'humanité par le même virus.
Ouais. C'est vrai. Ouais. Bon, on peut imaginer beaucoup de choses, mais. Lui suggère une apocalypse nucléaire. Et puis,
c'était l'obsession de l'époque.
Ouais, c'est
très suggéré. Il n'en parle pas longtemps.
Il en fait allusion au tout début dans son speech dans le cockpit, là où il dit est-ce que quand on va rentrer.
Mais c'est la fin, c'est le punch final.
L'humanité sera encore en train de se foutre sur la gueule.
Des dédites, quand il dit. C'est le punch final.
Il le dit clairement. Il dit vous êtes entre-détruits, un truc comme ça. Et puis après, il est là, damn you.
En tout cas, moi, quand j'ai vu le film dans les années 80, ça n'avait aucune ambiguïté. La fin, là. C'était clairement qu'on parlait d'une apocalypse nucléaire parce que c'était juste ça.
C'est la grosse.
C'était le thème de l'époque.
De la guerre froide encore à l'époque.
Ben, dans les années 68.
L'homme sur la Lune, c'est en quelle année? 69?
69.
69, donc oui, on était dans le pic de la course entre la Russie et les États-Unis.
Ouais. Ouais, clairement.
Je ne sais pas si on pourrait dire que c'est le pic de la guerre froide, mais probablement que c'était pas...
Mais la compétition était forte entre les deux pays, principalement pour la conquête...
Non, puis il y avait eu l'histoire avec Kennedy, la vue des cochons. On venait de friser une catastrophe nucléaire. Mm-hmm. Effectivement.
Donc, c'est clairement empreinte, ça.
Oui, c'est vrai qu'on peut dire que c'est probablement une époque où... C'était pas mal haut dans la guerre froide.
Allez, juste pour faire ce plaisir, on va se voir la scène finale du
justement,
film.
On en parle.
Puisque tous ceux qui sont là,
spoiler,
la connaissent.
On regarde la scène finale du film, puis après ça, on revient pour un petit...
Oui, on fait un petit... conclusion.
Un petit.
Un petit.
I'm home. All the time. We finally, really did it. You maniacs! You blew it up! Oh, damn you! I'm home. All the time. We finally, really did it. You maniacs! You blew it up! Oh, damn you! God damn you all to hell!
Image, oh, magnifique. Excusez le petit glitch là.
On vous l'a mis deux fois plus tôt.
On aimait tellement ça qu'on voulait la revoir.
Alors là, ça commentait toutes les plans, je vous dis.
Ouais,
là.
C'est magnifique. C'est magnifique.
Ah ouais, découpage incroyable. C'est les deux moments forts de Charlton Heston. C'est ce qu'on a vu tantôt, sa première réplique.
Ouais.
Et ça,
ouais.
Moi, que je le trouve nul dans le film, c'est personnel, mais ces deux moments-là, ça, c'est épique.
Ouais, vraiment. Alors, puis non, mais là, en plus, c'est le cadre avec...
Mais c'est le personnage que tu trouves nul. Est-ce que tu trouves vraiment le comédien nul?
La liberté, là, c'est magnifique, quoi, vraiment.
C'est le personnage que tu trouves nul. Est-ce que c'est le comédien que tu trouves nul?
Ben, je pense que je l'ai déjà vu quand même être bon dans d'autres films, mais je pense que c'est un type d'acteur... là, il y en a un paquet qui vont maïr, mais comment il s'appelle l'autre là, qui faisait plein de western, là, Gran Torino? Là,
Clint
Eastwood. Là, quand tu regardes les vieux films qu'il a fait là, de propagande dans les temps des trois heures, Reagan, Rambo, Rocky, là, Clint Eastwood, il a fait un paquet de films très patriotiques américains. Il y a un peu le même genre de jeu que Charlton Heston, vraiment une espèce de colon américain, soit policier, soit gars de l'armée, soit macho, soit... Moi, c'est un truc dans lequel je m'embarque pas du tout. Incapable de saquer
bon,
ce type de personnage.
C'est un genre de jeu de l'époque aussi. Hein?
Oui.
Mais c'est sûr que... Mais bon, quand même badass.
Mais il y a un petit côté anti-héros, parce qu'ils disent qu'à la fin, tu sais, c'est pas un héros qui... Tu sais, tout le long du film, il est comme pogné par les sièges. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de pouvoir, là. Tu sais, il essaie de...
Oui, mais il essaie pas de communiquer.
Essaie d'affirmer... Non, mais il essaie d'affirmer... C'est pas le héros classique qui affirme son pouvoir puis qui gagne, là. À la fin, il perd, là. Tu sais, il va aller où? Qu'est-ce qu'il va faire après avoir vu ça, là?
Non, mais c'est pour ça que cette scène-là, ça, c'est joué avec brio. Mais mettons qu'au début, là, avant qu'il fasse sa première réplique, il ne peut pas parler.
Ouais.
Mais normalement, n'importe quel autre être humain intelligent essaierait de communiquer en faisant des mouvements, en faisant oui, non, de la tête. Il essaie à rien. Ça prend un bon 20 minutes avant qu'il essaie d'écrire de quoi sur le sol.
Ouais.
Il n'a jamais pensé avant ça. Ça ne marche pas. Docteur Zizis ne veut rien savoir. À un moment donné, il essaie de voler l'espèce de pad de
Zira.
De Zira. Mais au lieu de demander son pad puis de faire un signe, je peux-tu écrire de quoi? Ben, il va pogner par le col, puis il a l'air d'un sauvage, finalement. Donc, il n'aide pas sa cause.
Mais je ne sais pas si c'est un problème de comédien ou de mise en scène et de scénario en même temps.
Ils ont besoin de faire durer un peu le truc.
Ouais.
Anyway.
Bref. Le film passe tout à l'heure, à 20h30, là, ici même, sur cette scène. Enfin, en face
dans
de
une
nous,
heure,
là, sur le grand écran, dans une heure. Et ça vaut le coup de le voir sur grand écran et puis de le revoir tout court parce que c'est un classique puis que voilà, c'est chouette. Donc 20h30 ici au Théâtre Rialto tout à l'heure, venez, c'est super.
Et puis après ça, on va se taper quel autre film la prochaine fois, Nick?
Attends. D'abord, on va déjà se faire un petit... rappeler un petit peu où est-ce qu'on peut vous retrouver. Tous les deux, on peut tous nous retrouver un peu sur les internets.
Ouais, je suis sur Facebook, je suis sur Twitter. Allez, cherchez mon nom, Marie-Louise Gariepi, vous allez me trouver.
moi, je suis chez nous la plupart du temps parce que j'ai plus le temps de sortir.
Dernièrement, non, j'ai Facebook. Pas... Toi, t'es Facebook aussi. Mais j'ai tellement pas eu le temps de faire de médias sociaux. Là. C'est comme ça a été
On a eu une couple de dernières semaines de folie.
Peut-être une petite anecdote. Hein. Moi puis Olivier, on a fait des films ensemble récemment.
Kino Cabaret.
Ça a été très le fun.
Que j'aurais
très
dû faire et que je n'ai pas pu.
Non, parce qu'il y a mal de dos.
Avec regret, mais voilà.
Mais on vous en reparlera quand ils seront projetés. Là. On invitera...
Donc c'est ça, Facebook un peu partout. Moi, mon point de chute, c'est Twitter, Steady Nick. Et puis, encore une fois, merci à Ezio Carosielli pour nous permettre d'enregistrer le podcast ici au Théâtre Rialto. Théâtre Rialto, c'est www.théâtrerialto.ca où il y a tout le programme de tout ce qu'ils font ici, parce qu'ils ne font pas que des projections de films, ils font plein de choses. Il y a aussi Rialto_Montréal sur Twitter. Et puis, pour 24 Quarks, ça se passe sur 24quarks.com, Quark, Q-U-A-R-K-S, sur iTunes. Abonnez-vous, mettez-nous des commentaires, tout ça, on aime ça. Et puis, Twitter, 24 Quarks aussi, toujours au pluriel. Et puis, la page Facebook. Et puis, partout, donc on ne peut pas nous rater. Voilà. Et puis, donc oui, dans deux semaines, on se retrouve, il n'y aura pas de projection ce soir-là. Mais dans deux semaines, on va parler du film de 1983, Brainstorm, que j'adore.
Tu l'as vu, toi, Olivier?
Que j'adore. Il y a longtemps. Ça va être à redécouvrir avec plaisir.
Ouais.
Brainstorm de Douglas Trumbull. Donc, il n'y aura pas de projection. Par contre, ça sera la semaine... On peut déjà...
C'est pas confirmé encore, mais dans un mois, on essaie. Il faut que j'en reparle, mais on aimerait bien présenter Robocop.
Sinon, ça va être Prometheus.
Mais c'est ça, pour le confirmer avec le distributeur, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des petites difficultés des fois à diffuser des films.
Certains films, ils sont pas tous.
Certains films, on avait prévu un autre film au programme qu'on peut pas présenter.
On
va reviser. Ouais, on va peut-être réviser aussi cette question de projection. On en parlera la semaine prochaine aussi.
En tout cas, dans deux semaines, c'est Brainstorm. On ne sait pas encore si ça sera vidéo ou audio. Tout dépend un petit peu de là où on se trouve.
Oui, de où on se trouve. Parce qu'on est une fois par mois au Rialto, puis après ça, c'est dans mon salon. Donc, si je n'ai pas fait le ménage.
Donc, excusez-nous pour ceux qui aiment bien la vidéo.
On s'est fait chicaner pour la dernière fois.
Oui, c'est ça. Désolé. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est fun pareil. Et donc, on va se quitter avec la bande-annonce de Brainstorm, tiens, pour se donner envie. Hein? L'extro que je t'ai préparé, là, la petite extro. Alors, bye bye et merci de nous avoir suivis et à bientôt.
Suppose it were possible to transfer from one mind to another the experience of another person.
Hey, there it is.
Any person, any experience.
I'm telling you, it works.
Test, sound, taste.
Everything, 100%. In fact, better.
Did you have a breakthrough or not?
Yes.
I'd like a demonstration. Knock my socks off.
What about military applications?
Wide open.
Missile guidance, that kind of thing?
They're going to be able to plug right into the old noodle.
I made that for you.
What is it?
It's me.
You've blown communication as we've known it, right out of the water. You know that, don't you?
So something happened to me. It was more than just a sexual fantasy. It was a feeling I had. I'm more than I was, Mike.
I'm scared. But the thing is, I like it. I want more.
No, I can't authorize this.
It's a chance to take a scientific look at the scariest thing a person ever has to face.
This is not the research we're interested in.
This is my project. I don't want to see it end up on some defense scrap heap before we know what it's really about.
Now, what do
these personal experiments stopped.
I told you, I want to play it out.
Nobody plays that tape.
Arrest him.
They're on to us.
Собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни?
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
The robots are coming.
I want more life.
Fucker. 24 secondes.